Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue. Le kiosque culture et société du lundi 15 juin. J'ai ma date aujourd'hui.
Ah, ben c'est bon, vous êtes la date, vous. Excellent.
Et commencer, et pour vous le présenter,
ouais.
Celles et ceux qui vont vous le présenter, ce sont...
Oui, oui, ce sont...
France Ligneviard.
Oui, Serge Hamelin.
Et Roger Roy. Sans oublier celui qui, sans lequel nous ne pourrions nous rendre jusqu'à vous, étant régi là.
Oui,
Mathieu Tessier.
Bocal.
Que nous saluons. Alors, qu'avons-nous au menu aujourd'hui? Le programme, c'est quoi?
Le menu, ça commence bien parce que moi, c'est à toutes les sauces. Hein?
Ah oui?
Ben oui, je vais parler d'huile végétale.
Je croyais que c'était l'huile d'olive.
Ben, entre autres.
Bon.
Ensuite, moi, il va y avoir un article sur Ni bleu ni rose. C'est à propos des jouets garçons-filles. Et c'est donc un article de La Presse Plus, de Marie-Claude Lorty. Et mon deuxième texte s'intitule « Gérer l'argent de ses parents, un défi de taille ». C'est Stuffy Stival qui écrit cela dans Le Bel Âge de juin 2015.
Ouais, j'ai pas fini. Non. Et puis moi, comme deuxième article, hein, savez-vous de quoi je vais parler?
Non.
L'été commence, on sait pas quoi faire. Eh bien, j'ai 50 sorties estivales à moins de 50 $.
Moi, j'en ai une seule sortie estivale à vous proposer.
Ah oui?
Elle est à Coaticook. C'est pas pour aller au marchand de crème glacée, là, c'est autre chose.
Ah bon?
Oui, c'est une forêt spéciale qu'il y a à Coaticook.
Ah oui?
On va vous présenter tout à l'heure.
Et allez-vous y aller à genoux?
À genoux, oui, je commence par le genou.
Ah bon?
Une journée dans la vie d'un genou, c'est un monologue d'un genou qui a été imaginé par Gilles, G-I-L-L, Provost. C'est le genou qui parle beaucoup de son corps. Corps avec un C majuscule. Cet texte paraît dans le Reader's Digest du mois de mai. Une journée, donc, dans la vie d'un genou. Mmh. On est bien sous la couette, mais je préférerais en sortir. L'inflammation me fait mal. Je suis brisé par une nuit sans mouvement. J'attends que le corps se rende compte de mes raideurs matinales. Il gémit et se retourne. Il glisse les pieds hors du lit, puis les pose lourdement sur le plancher. Je vais être franc. Il faut du cran pour redresser et soutenir 95 kg. Oh. Je ploie sous la charge et marque-bout. Mon voisin du dessus, le muscle de la cuisse, se contracte et tire brusquement le tendon quadricipital, lequel, entraînant la rotule, permet à la jambe de s'allonger. Je suis donc une articulation munie de poulies. Elle me plie et me redresse. Oh. Ouais, c'est bien. Et voici comment a commencé mon malheur. Le corps avait terminé ses études 10 ans plus tôt et il nous a laissé nous ramollir, les muscles, les ligaments, les tendons et moi. Je ne lui reproche rien, remarquez. On passe la journée assis à une table et on rejoint les copains pour un 5 à 7 qui trouvent le temps de s'entraîner. Et puis, un samedi, il parle du corps, participe à un petit match de basket improvisé. Il se remet à courir comme l'athlète qu'il n'est plus, sans échauffement et claque.
Ouais.
Hein? Il déchire mon ligament croisé antérieur, celui qui me traverse de part en part au centre, celui qui rattache le fémur au radius et m'empêche de gigoter dans tous les sens. La pire journée de ma vie, j'ai entendu un bruit sec, une douleur atroce m'a aussitôt envahi et le corps est tombé par terre. C'est pourquoi j'ai l'air si raviné pour mon âge, j'ai 49 ans. Une chirurgie et une rééducation m'ont tout à fait rétabli, mais ma déchirure du ligament me laisse avec un risque de 50 % de développer de l'arthrose dans les 10 ou 20 ans à venir. Je ne parierais pas cher là-dessus. Quant à mes cartilages qui protègent l'extrémité des os et font qu'ils ne frottent pas les uns contre les autres, ils ne s'en remettront peut-être jamais. Tiens, le corps s'informe des prévisions météo. On annonce un ciel dégagé. Fadaise! Fie-toi plutôt à moi, j'éprouve toujours plus de malaise quand il va pleuvoir, or je suis tout pantelant ce matin. Le médecin du corps admet que de nombreux patients s'en plaignent, mais il ne sait pas exactement pourquoi la douleur augmente dans ces circonstances. Selon l'hypothèse la plus vraisemblable, une articulation enflammée gonfle davantage lorsque la pression de l'air tombe, ce qui irrite les terminaisons nerveuses. Sur le chemin du bureau, le corps s'arrête pour acheter un café, grâce au ciel, et ne l'accompagne pas d'un sandwich, saucisse, fromage et œufs, car avec tous les kilos qu'il a pris, je me sens comme un cure-dent soutenant une enclume. Le surpoids du corps ne me tue pas seulement à petit feu, il menace d'arthrose ma douce moitié, le bon genou. Le corps arrive au bureau en traînant les pieds. Sous cette table où il s'installe, il ressent mon inconfort et avale deux cachets d'ibuprofène. Cela calme la douleur quelques heures. Le médecin dit qu'un jour, le corps devra songer à me remplacer.
Ah bon?
Oui. Mais c'est moins grave qu'il y paraît. Je devrais dire adieu à mes cartilages déchirés. On polira l'extrémité de mes os sur lesquelles on fixera des plaques métalliques. C'est à peine si je me reconnaîtrais. Mais le corps a-t-il le choix? Veut-il clopiner toute sa vie? Pour moi non plus, ce n'est pas drôle. Pour l'instant, la vie continue. Il téléphone à son épouse, c'est le corps toujours. Il se retrouve au club de gym après le travail. Le corps voit sa femme courir vers lui, chaussée de talons hauts. Aïe, par chance, je ne suis pas l'un de ses genoux. Elle a oublié son parapluie et ne veut pas être trempée. Mesdames, ça c'est le genou qui parle. Souciez-vous davantage de vos articulations et moins de quelques gouttes de pluie. Les talons hauts sont un vrai calvaire pour nous, d'autant plus que les genoux féminins sont plus sensibles. Mais elle est jeune et en pleine forme, ce qui la sauve, pour le moment.
Oui.
Je n'apprécie pas plus les souliers de course dits « confortables » que porte le corps. Ils assurent une stabilité à l'athlète, mais plus ils sont rigides, plus la tension est pénible pour moi. J'espère qu'il va les échanger pour des chaussures à semelles souples permettant aux pieds de plier facilement. Le corps contemple à regret le terrain de basketball. Tant d'autres activités lui seraient plus bénéfiques. La natation, le cyclisme, le tai chi. Il les croit toutes destinées aux vieillards, mais moi, le genou, je les adore. Elles préviennent l'usure et les raideurs. Jadis, quand je me blessais, on m'enfermait dans un plâtre. Quelle erreur! Les cartilages doivent bouger le plus possible et soutenir du poids en mouvement pour se régénérer. Le corps essaie le vélo elliptique. C'est une aubaine. Je me sens déjà mieux il y a quelques jours. Vite, aux haltères. Plus les muscles sont fermes, mieux les articulations se stabilisent. Le corps bâille après avoir mangé. D'habitude, il se couche tard, oubliant que le sommeil atténue ma douleur. Les exercices d'aujourd'hui l'ont sans doute épuisé. Ce soir, il me ménage. Plutôt que de se coucher sur le ventre, il s'allonge sur le flanc, un oreiller entre les genoux. Cette position me plaît. Et quand je suis heureux, il récupère mieux la nuit. C'est ce que j'appelle avoir de l'esprit de corps, hein, entre le genou et le corps. Une journée dans la vie d'un genou par Jill Provost. C'est dans le Reader's Digest du mois de mai qu'on peut lire ce texte.
Alors maintenant, ni bleu ni rose. Cette nouvelle a fait le tour du globe. Le problème, c'est qu'elle n'était pas vraie. Le géant de la vente en ligne, Amazon, n'a pas déclassé, désexué ses jouets sur son moteur de recherche. Si vous demandez au site web de vous trouver des jouets pour garçons, il va vous proposer un ensemble de menuiseries, des bulldozers, des casse-têtes de camions, des jumelles et même une tablette spéciale pour les gars. Oui, une sorte d'iPad, une éducation machine pour Kid Boys. Je ne blague pas, c'est sur le site, c'est bleu. Du côté des filles, il y a des poupées, du faux maquillage, un sac à main joué avec son contenu incluant un miroir. Si on descend sur l'écran, on aperçoit une canne à pêche, ce qui est quand même chouette. Mais il y a aussi des trousses pour tricoter, pour faire des bijoux, pas mal de costumes de princesse. Si on continue, on finit par tomber sur une batterie. Destiné à la fois aux filles et aux garçons. Ouf! Juste au-dessus des décorations à cupcake, en forme de flacons de vernis à ongles, de petits nœuds et de tubes de rouge à lèvres. Allez sur n'importe quel autre site de grand magasin, vous trouverez la même chose. Allez en personne dans une boutique de jouets, vous ferez face à la même réalité. Même Lego, la marque danoise, est tombée dans le panneau. Il y a plusieurs années, alors que dans les années 70, elle était l'exemple idéal du jeu neutre. Des blocs rouges, jaunes, verts, avec lesquels on construisait ce qu'on voulait, que ce soit une maison, un appareil photo ou un vaisseau spatial. Aujourd'hui, Lego propose aux gars des engins de Star Wars et aux filles de construire le château de Cendrillon. C'est caricatural comme ça. Je me rappelle une fois être entrée dans une boutique pour acheter quelque chose à une fillette passionnée par la médecine vétérinaire. Je me disais que peut-être il y aurait un jeu du genre « faisons semblant d'être un hôpital pour animaux et soignons nos toutous ». « Ah, pour ça, il faudrait aller dans la section des gars », m'avait répondu la vendeuse. « Oui, madame, tous les jeux scientifiques sont là. » Je ne prétends pas avoir été une mère parfaitement féministe, hors de tout stéréotype. Je n'en fais pas une religion. Je ne suis même pas convaincue de la valeur des expériences scandinaves sur ces enfants neutres dont on refuse de dire le sexe pour les mettre à l'abri de toute socialisation préprogrammée et polarisée néfaste. Mais il y a quand même des limites à penser qu'il faut proposer des mini-ordinateurs aux garçons et du maquillage aux filles en 2015. Ça me donne envie de hurler. De quoi souffrent ces marketeurs ? Est-ce de bêtises, de machisme ou d'un manque désespérant d'imagination ? Apparemment, je ne suis pas la seule à en avoir marre. En 2012, un groupe de parents britanniques s'est formé pour fonder Let Toys Be Toys, Laissons les jouets être des jouets, un organisme de bénévoles sans but lucratif dont la mission est d'inviter la population en général, les commerçants et le milieu de l'éducation en particulier, à lutter contre ces stéréotypes et à passer outre aux messages que les gens de marketing martèlent avec leurs jouets bleus et roses. Pardon. Une des stratégies est d'encourager tout le monde à envoyer des photos de telles aberrations sur Twitter à l'adresse @commercial Let Toys Be Toys et on y voit de tout. Ici, c'est un t-shirt pour bébé qui dit que maman est la meilleure copine alors que papa est un super-héros. Là, ce sont des peignoirs pour enfants, le bleu pour garçon en forme de requin, tandis que le rose pour mademoiselle lui donne l'allure d'une sirène. Tant pis pour la petite fille qui aime bien les requins. Dans cet univers qui défile sous nos yeux, il semble impensable que les fillettes puissent aimer les pirates et les garçons le jardinage, que les petites soient des championnes et les garçons des enfants sages. Rêver de fusée, une affaire de gars. La cuisine, une affaire de froufrou. Les valeurs sont dichotomiques à souhait. Le rose et le bleu, le gentil et le dynamique, le sage et le fort, le domestique et l'aventurier. On a l'impression d'être dans les années 50. Et le pire, c'est que tout cela est un vaste retour en arrière. On régresse. Les hippies et les féministes des années 70 avaient réussi à faire avancer la machine, à la convaincre de nous vendre dans l'enthousiasme des jouets neutres dont le but était de développer la créativité, l'imagination, la logique et la débrouillardise. Pas l'art de se mettre de l'ombre à paupières. Pourquoi ce virage à 180 degrés maintenant, dans un univers qui autrement essaie de se départir de ses ornières, de célébrer la diversité sous toutes ses formes, d'encourager les enfants à devenir qui ils sont et non ce qu'ils devraient être. Va-t-il falloir menacer de boycotter les vendeurs et manufacturiers de jouets qui s'entêtent à vouloir nous faire reculer pour que ça change ? J'espérais pouvoir annoncer ici ce matin qu'Amazon avait enfin décidé de laisser tomber cette approche néandertalienne, le genre de petite bonne nouvelle qui réjouit et qui rend confiant. Mais ce sera pour une autre fois. Voilà, c'était écrit par Marie-Claude Lorty dans La Presse Plus du 16 mai 2015.
Compliments pour vos saisons qui nous donnent des idées. On n'a jamais trouvé un vert plus bleu, un bleu plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie.
Bravo le vent qui fait danser les pluies, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil, la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Bravo monsieur le monde, chapeau.
Extrait de Duo improbable numéro 2 par Gabriel Marion Rivard et Yann Perrault.
Ah, ben moi aussi j'ai des extraits, ce sont des huiles.
Oui, il faut dire aussi que ces duos improbables sont réalisés au bénéfice du mouvement, de l'organisme Les Impatients.
Ah. Alors, les huiles végétales, à toutes les sauces. Tournesol, canola, pépins de raisin, olives, arachides, la quel privilégié pour la santé ou pour cuisiner de bons plats. Petit tour d'horizon des principales huiles alimentaires, c'est ce que nous propose Daniel Verville dans la revue Protégez-vous. Mm-hmm. En assaisonnement ou pour la cuisson, les sautés ou la friture, les huiles végétales occupent une place de choix dans notre alimentation. Avec raison. Puisqu'elle constitue un nutriment nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme en lui procurant les acides gras insaturés qu'il est incapable de produire dont il a besoin. Aha. Même si les gras insaturés contenus dans les huiles alimentaires sont bons pour la santé, il ne faut pas avoir la main trop lourde. Parce que le genou...
Hein, oui, c'est ça.
Parce que trop de gras n'est pas forcément bénéfique.
Tout est dans tout.
Oui. Prévient cependant Amélie Charret, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Université Laval. Des gras bénéfiques pour la santé. Bon. Les huiles alimentaires contiennent des acides gras insaturés, les fameux bons gras, qui se divisent en deux catégories, mono-insaturés ou polyinsaturés. Est-ce que, pour une fois pour toutes, je vais comprendre c'est quoi ça? Les premiers, mon Dieu, aussi appelés oméga 9, sont très présents dans les huiles d'olive et de canola et ont des effets positifs sur la santé du cœur. Donc, ça là, c'est les mono-insaturés, hein, c'est ça?
Les oméga 9.
Et polyinsaturés. Alors, les premiers, aussi appelés oméga 9, sont très présents dans les huiles d'olive et de canola et ont des effets positifs sur la santé du cœur. L'huile d'olive vierge, extra. Pressé à froid, contient également beaucoup d'antioxydants qui ont, entre autres, des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes.
Oh, le genou aimerait beaucoup.
Oui, et peut-être qu'il y aurait moins besoin d'ibuprofène, anti-inflammatoire. Et malgré tous ces bienfaits, il faut se badigeonner d'huile le soir avant de se coucher. Malgré tous ces bienfaits, l'huile d'olive est très pauvre en oméga-3. Un acide gras polyinsaturé essentiel pour le corps, souligne Christina Blais, nutritionniste et chargée de cours à l'Université de Montréal. À ce moment-là, si vous êtes un amateur d'huile d'olive, comme moi, alors il faut rajouter, de temps en temps, vers une autre huile qui en contient, elle, comme celle de canola ou de noix de Grenoble.
Ah ouais?
Alors, j'ai acheté un 5 litres de canola. Et pour retirer tous les bienfaits des acides gras polyinsaturés, un bon rapport entre oméga-3 et oméga-6, 5 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3, doit être maintenu, précise de son côté Amélie Charret. Or, en Amérique du Nord, ce ratio est plus élevé et il faut généralement limiter notre consommation d'oméga-6. Ces derniers se trouvent dans les viandes, mais aussi dans les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de cartame et de palme, très utilisés dans les produits industriels. Ils participent notamment au fonctionnement des systèmes nerveux, cardiovasculaires et immunitaires. Et quant aux oméga-3, très présents dans le saumon, le hareng, le thon blanc, les fruits de mer ou l'huile de canola, ils jouent un rôle dans la régulation de la tension artérielle et dans l'élasticité des vaisseaux, entre autres. Alors, pour nous aider à nous y retrouver, hein, protégez-vous en présente quelques variétés d'huile à choisir en fonction de leurs caractéristiques nutritives et de l'utilisation qu'on veut en faire. Alors, il y a l'huile de tournesol qui sera à teneur modifiée en acide oléique, rien de moins. Il y a l'huile d'arachide, l'huile de canola, l'huile d'olive, l'huile de maïs, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'olive extra vierge, l'huile de sésame et l'huile de noix de Grenoble. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter? Je vais terminer là-dessus. Les huiles peuvent servir à aromatiser, cuire ou frire les aliments. Une bonne huile de friture doit avoir un point de fumée d'au moins 200 degrés, 100 Celsius. Centigrades. Celsius?
Celsius.
Celsius, merci. Être pauvre en gras saturé, riche en gras monoinsaturés, je ne suis pas un spécialiste de la température, sinon je travaillerais à Météo Média, et ne pas coûter trop cher. Les huiles avec une teneur élevée en acides gras oméga-6 et oméga-3, les gras polyinsaturés, se dégradent plus facilement à la chaleur. La température de la friteuse ne doit pas dépasser 180 degrés. Et la ventilation doit être suffisante, oui, ça c'est sûr, pour éviter l'inhalation de molécules irritantes. À chaque friture, remettez de 10 à 15% d'huile fraîche pour ajouter des antioxydants. Ça, je ne savais pas. Ah ah! Plus une huile contient d'acides gras polyinsaturés, moins elle se conserve longtemps. Les huiles raffinées se gardent environ 12 mois dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur, sauf l'huile d'olive qui peut se conserver jusqu'à 18 mois. Et les huiles pressées à froid peuvent être stockées environ 3 mois dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et certains spécialistes recommandent de les conserver dans une bouteille opaque au réfrigérateur, sauf l'huile d'olive vierge extra qui peut être placée dans une armoire et se conserve de 12 à 18 mois.
L'huile de pépin de raisin.
Oui,
oui. Est-ce qu'on en trouve sur les...
On en trouve un peu partout. Oui, ah, bon. Oui.
On apprend toujours des choses.
Alors, bon appétit tout le monde.
Alors, quelques brèves, et après avoir entendu ce qui concernait l'huile, voici des informations sur le vin chinois. Quelques chiffres. 800 000, c'est l'étendue en hectares des vignobles chinois. Cela place le pays au deuxième rang mondial derrière l'Espagne, qui a 1,02 million d'hectares, mais devant la France, qui n'a que 792 000 hectares de vignes. Toutefois, ces mêmes vignes en Chine produisent aussi du raisin de table et des raisins secs. 11,1 millions, c'est en hectolitres la production de vin total en Chine en 2014. La France, par contre, demeure le plus grand producteur dans le monde avec près de 47 millions d'hectolitres, suivi de l'Italie, 45 millions, et de l'Espagne, 42 millions. Et enfin, 1,6 c'est le pourcentage de la production de vin chinois qui a été exporté en 2011, ce qui représente 32 millions de bouteilles. Les principaux marchés sont l'Europe et les États-Unis.
Tiens, tiens.
Voilà.
Et l'huile de coco?
Tiens.
Ah, l'huile de coco semble faire... Vous savez qu'elle est devenue très populaire à Hollywood.
L'huile de coco?
Oui, parce qu'on s'en met dans la figure, sur les cheveux, sur la peau, c'est extraordinaire.
Ah ouais?
Oui, oui, oui. L'huile de coco semble faire un grand retour dans les suggestions des passionnés de cuisine. Longtemps évitée du fait qu'elle contient près de 90 % d'acide gras saturé, elle ne serait pas si néfaste que cela selon certaines études. Et qu'en est-il réellement? Ah, et puis c'est bon aussi pour l'Alzheimer.
Ah ouais? Ah,
oui. Son profil est assez particulier puisqu'il est composé d'acide laurique, un acide gras à chaîne moyenne qui est métabolisé différemment de ceux à chaîne longue contenus dans la viande ou dans le beurre, explique Amélie Charest, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Université Laval. Résultat, cette huile augmenterait à la fois le bon et le mauvais cholestérol. Alors, si vous l'utilisez occasionnellement dans les pâtisseries ou sur du pain, elle n'est pas aussi mauvaise qu'on le croyait, car les effets négatifs des acides gras saturés ne sont pas tous égaux, conclut-elle, en rappelant toutefois que les gras insaturés demeurent meilleurs pour la santé et que les gras saturés.
Ah oui, moi, je vous parle d'une nouvelle un peu grasse que j'ai lue dans l'actualité. Bon. Les murs contre-attaquent. Exaspérés par l'armée de fêtards qui urinent contre les murs des bâtiments de Schrankpoli, quartier chaud de Hambourg, les résidents de cette ville portuaire allemande passent à l'attaque. Ils ont enduit le bas des murs d'une peinture très hydrofuge. Ah. Ainsi, lorsque ces messieurs se soulagent, les murs leur renvoient une pluie d'urine sur les pieds.
C'est donc beau.
Enfin, oui, le grain de la discorde. La mode sans gluten, on est toujours dans l'alimentation, qui déferle sur l'Amérique du Nord, a des répercussions jusqu'en Afrique. En cause, le teff, un grain éthiopien très nutritif et surtout sans gluten, qui séduit de plus en plus les Occidentaux. En Éthiopie, le teff sert à préparer la grande crêpe traditionnelle, consommée à peu près à tous les repas.
Infidélité financière maintenant. Aux États-Unis, 14 % des femmes ont déjà fait un achat d'une valeur de plus de 500 $ à l'insu de leur conjoint. Quand nous continuerons cette nouvelle très importante.
Mais oui. Hein? Mais oui. Il reste encore 15 secondes. Hein? Allez-y.
J'ai perdu mon élan.
Et nous voilà de retour. Kiosque Magazine.
Et nous voilà de retour pour la deuxième partie du Kiosque Magazine du 15 juin. Et dans la Reader's Digest du mois de juin, justement, Hélène de Billy nous parle de Coaticook. Elle ne nous parle pas de la crème glacée Coaticook, ni
non,
de l'inondation.
C'est dommage, hein, non, la pistache.
Ni de l'inondation récente qui a frappé la localité. Non, elle nous présente la forêt phénoménale de Coaticook.
Ah.
Oui, c'est ça. À l'entrée du parc. Sous les lanternes magiques, tandis que les oiseaux mystérieux font entendre quelques pépiments étranges, on nous invite à partir à la rencontre des esprits, spectres et autres fantômes de la nuit. Aussitôt, une avalanche de feux follets éclaire le ciel et l'envoûtement s'installe. Une fée se met à danser sur un nuage à travers les branches. Son balai est interrompu par l'apparition d'un monstre qui cherche à la dévorer. Comme tout le monde, je retenue mon souffle. On a beau savoir qu'il s'agit de projections numériques, on se laisse prendre au jeu. Tel est l'univers enchanté de Foresta Lumina, le parcours nocturne du parc de la Gorge de Coaticook. C'est assez extraordinaire, la Gorge de Coaticook, à voir. La sensation touristique de l'été au Québec. Passé l'enchantement, ce que je retiens le plus de ma visite de ces sentiers féeriques effectués au mois d'août dernier, c'est l'indescriptible engouement que ce nouvel attrait touristique suscite auprès du public. Entre les grands pins et la fontaine des souhaits, tous savouraient cette immersion dans ce domaine du rêve. L'expérience est tout autre chose qu'une simple balade en forêt, sauf peut-être pour ce qui est de l'importance d'avoir de bonnes chaussures. Des bonnes chaussures comme celle de Serge. Pour le reste, ce spectacle, son et lumière mettant en vedette des créatures fantastiques, est tout à fait original. Pas étonnant puisqu'il est signé « Moment Factory ».
Ah oui.
La société montréalaise du divertissement qui a conçu plus de 300 installations multimédia à travers la planète et mis en lumière la Sagrada Familia de Barcelone,
ah oui.
Le Boardwalk Hall d'Atlantic City, les spectacles de Céline Dion et du Cirque du Soleil même. Moment Factory. Oh. C'est montréalais comme organisme. Oh. Toujours est-il que son immense succès a pris tout le monde par surprise. Lorsque nous avons établi notre plan d'affaires, nous espérions attirer 7500 visiteurs la première saison, rappelle Caroline Sage, directrice générale du parc de la Gorge de Coaticook. Au final, en septembre dernier, plus de 72 000 visiteurs avaient franchi le portail de la forêt enchantée. Et quels visiteurs!
Et ça coûte combien?
Ah, ils ne le disent pas ici dans l'article. Hein?
Ah, je vais téléphoner.
Pour faire des réservations, ça a l'air sur Internet, à part ça, oui. Le spectacle coup de cœur est parvenu à attirer des touristes de tous âges qui ignoraient jusqu'alors cette région de l'Estrie, plutôt éloignée des grands centres urbains. L'engouement médiatique aidant, les terrasses de Coaticook se sont remplies, les campings ont affiché complet, les hôtels des villes environnantes ont redoublé d'activité et les stands auraient même manqué de la meilleure crème glacée au monde.
Ben,
c'est
oui.
écrit entre guillemets. Tous les commerces ont profité de l'achalandage, précise Geneviève Roberge, responsable des communications à la ville. D'autant plus que l'arrivée de cet heureux événement coïncidait avec son 150e anniversaire l'an dernier. Environ un cinquième du budget de l'installation lumineuse de 2 km réalisée au coût d'un million de dollars...
2 km?
Oui. Est d'ailleurs venu de la municipalité de Coaticook. Le reste provient de subventions gouvernementales et de dons privés. La façon dont la petite équipe a relevé le défi a mis en lumière la capacité à rassembler et le dynamisme de toute une communauté. L'organisme de Mme Sage a d'ailleurs été couronné Entreprise touristique 2014 par Tourisme Canton de l'Est. C'est à chacun des employés que l'on doit notre réussite, affirme celle qui a dirigé les troupes de main de maître dans cette aventure régionale hors pair. Derrière tout ça, il y avait la volonté de revitaliser un site exceptionnel. Depuis plusieurs années, on songeait à un parcours de nuit, explique Caroline Sage. Un membre de notre organisme connaissait un employé de Moment Factory. Nous sommes donc allés rencontrer l'équipe à Montréal. Quand on est sorti de là, on n'avait pas encore ramassé un cent, mais on était gonflés à bloc. Pour Marie Belzil et Gabriel Pontbriand de Moment Factory, ce genre d'aventure était une aubaine. Nous sommes tellement fiers de pouvoir mener un projet québécois, confie Marie Belzil. Un tel défi artistique nous permet de connaître nos limites, d'expérimenter de nouvelles avenues. Comme le spectacle prend place entre canyon et pont suspendu, il bénéficie d'un décor naturel extraordinaire. Il s'inspire de mythes universels, mais aussi de légendes de la région. J'ai rencontré des historiens locaux, rappelle Marie Belzil, pour créer un récit qui tienne compte de l'imaginaire des habitants de la ville. Pour les 80 représentations prévues pour la prochaine saison, qui débute bientôt le 19 juin, les organisateurs ont décidé de s'attaquer à l'importante affluence que le spectacle génère. On prévoit 350 admissions aux 30 minutes, de 21h à 23h, les entrées sont à l'heure fixe. À cet effet, on instaurera une billetterie en ligne. Aussi, une aire d'attente sera aménagée en forêt, toujours en collaboration avec Moment Factory, pour mettre les visiteurs dans l'ambiance avant le spectacle. J'espère que Foresta Lumina deviendra un jour un incontournable au Québec, conclut Caroline Sage. Alors, c'est un texte de Hélène Debilly dans le Reader's Digest du mois de juin, Une forêt phénoménale. On n'en parle pas dans l'article, on ne sait pas s'il y a un lien avec la chanson maintenant de Pierre Lapointe qui s'appelle La forêt des mal-aimés.
À vous, mes chers mal-aimés, à vous qui avez rêvé de terres un peu moins brûlées, à vous qui êtes venus jusqu'ici, jusqu'à moi, cueillir le fruit du regret délaissé dans la forêt des mal-aimés, dans la forêt. forêt des Malimis, chaque arbre est un membre oublié, chaque feuille une âme délaissée. Dans la forêt des Malimis, comme il fait bon s'y promener. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu? La la la. D'eau de corneille, venez vite boire le liquide vermeil. Venez vous saouler de blanchi sommeil. Ici c'est surtout ira moins que bien. Si vous osez suivre le chemin, pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu?
Alors, un sujet d'un tout autre ordre. Ah. Vos parents ne peuvent plus ou tout simplement ne souhaitent plus gérer eux-mêmes leurs affaires, vos parents.
Ah.
Quelle que soit la raison, vous pourriez donc devenir non seulement un aidant naturel, mais également un administrateur du bien d'autrui. Il vous faudra agir alors en bon père de famille et ne pas outrepasser vos droits tout en respectant ceux de vos parents. Un défi de taille, mais qu'il est possible de relever. La personne qui gère les actifs de ses parents parce qu'elle est nommée dans une procuration ou un mandat en cas d'inaptitude se fait donner un chèque en blanc, lance d'emblée la notaire Danielle Beausoleil, associée au bureau Prud'homme Fontaine-Dolan. Une procuration générale accorde beaucoup de pouvoir aux enfants. Il vaut toujours mieux circonscrire ses pouvoirs en fonction des besoins des gens, ajoute Maître Beausoleil. La personne qui rédige une procuration à l'intention de son enfant devrait spécifier, par exemple, si celui-ci pourra retirer des sommes du compte de banque. Si oui, on précise un montant maximum et à quelle fin il peut le faire. On peut aussi indiquer si ce dernier peut vendre ou non la maison, piger dans les REER, etc. Même s'il est en possession d'une procuration, précise Maître Beausoleil, l'enfant devra rendre des comptes aux parents en lui disant, par exemple, qu'il a retiré 3 000 $ de son compte aujourd'hui pour payer telle facture. Dès qu'on est nommé l'administrateur du bien d'autrui, on a l'obligation d'agir en bon père de famille, dit-elle, dans le respect des termes de la procuration, en tenant le parent au courant de nos actions. Lorsque les capacités mentales sont touchées, la procuration n'a plus sa raison d'être. On doit alors vérifier si un mandat en prévision de l'inaptitude a été rédigé par le passé. Il faudra également prouver l'incapacité du parent. Selon le curateur public, une personne est inapte lorsqu'elle est incapable de s'occuper d'elle-même ou d'administrer ses biens. L'origine peut être une maladie dégénérative ou mentale, un accident vasculaire cérébral ou d'autres choses. Une évaluation médicale et psychosociale est alors nécessaire. Suivra ensuite la procédure judiciaire qui confirmera l'incapacité avec l'homologation du mandat. Il faudra compter entre 3 et 6 mois parfois pour ce faire. Puisque ses avoirs seront gelés durant cette période, il est recommandé, quand tout va bien, que le parent donne une procuration à son mandataire afin qu'il puisse payer les dépenses les plus pressantes. Voilà le cas de Jeanne. Elle a 87 ans. Jeanne est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il y a 8 ans, elle avait signé une procuration par laquelle sa fille Louise était désignée pour s'occuper de ses avoirs financiers. Alors qu'elle avait encore toute sa tête, Jeanne en avait profité pour nommer sa fille mandataire en signant un mandat en cas d'inaptitude afin que cette dernière administre ses biens et veille à sa protection. En l'absence de son mari décédé, Jeanne avait fait entièrement confiance à sa fille aînée. Précisons que la dame a pris le soin de détailler les désirs et les tâches de la future mandataire, par exemple les pouvoirs de Louise quant à la gestion des placements, au choix du type d'hébergement, au consentement aux soins et au traitement de fin de vie. Dans le cas présent, le pouvoir accordé à Louise par le mandat est celui d'une simple administration. Louise devra donc investir les économies de Jeanne dans des placements présumés sûrs. L'idée, c'est que le capital de Jeanne ne diminue pas ou ne soit pas dilapidé au fil des ans. À l'opposé, une pleine administration accorde tous les pouvoirs au mandataire, sauf celui de donner de l'argent, rappelle le maître Beausoleil. Dans un tel cas, le mandataire doit faire fructifier les biens du mandant. Il a également le pouvoir de vendre ses propriétés, ses biens et même d'hypothéquer un immeuble lui appartenant. Jeanne n'a pas jugé nécessaire de nommer commanditaire son fils Mario, qui a des enfants adolescents et une vie professionnelle chargée. Louise devra tout de même rendre des comptes à son frère et lui démontrer qu'elle respecte les volontés de leur mère, en plus d'agir dans son intérêt supérieur. Dans le cas de tout mandat, la transparence du mandataire est de mise afin d'éviter les conflits familiaux. Et s'il n'y a pas de mandat? En l'absence de mandat, les enfants du parent déclaré inapte devront réunir la famille afin d'avoir leur avis sur le choix de celui qui le représentera. Et que fait-on quand il s'agit d'une famille recomposée? C'est toujours plus délicat. On pourrait nommer deux mandataires, soit le présent conjoint et un enfant de la précédente union, remarque Maître Beausoleil. Le curateur public pourrait toujours intervenir en cas d'abus ou de conflit, ou encore si le mandat ne peut être homologué. Il doit alors ouvrir un régime de protection. Un tuteur pourrait être nommé si l'inaptitude du parent est partielle et temporaire. S'il s'agit d'une inaptitude totale et permanente, on désignera plutôt un curateur pour représenter cette personne. Alors, quelques questions à propos du mandat en cas d'inaptitude. Avant de rédiger le mandat en cas d'inaptitude de ses clients, la notaire Maître Beausoleil leur soumet ce questionnaire. Advenant votre inaptitude, qui prendra soin de vous décidera des questions médicales de l'endroit où vous serez hébergé. Advenant votre inaptitude, qui administrera vos biens? Est-ce la même personne qui s'occupera de votre patrimoine personnel et de vos sociétés? Pour chaque personne que vous nommez, qui voulez-vous indiquer comme remplaçant? Durant la période d'homologation de votre mandat, qui peut prendre 3 à 6 mois, consentez-vous à accorder à votre mandataire des pouvoirs de simple administration afin qu'il puisse payer les différents comptes sur production de factures? Vos mandataires peuvent-ils faire des placements selon leur bon jugement ou désirez-vous qu'ils soient limités aux placements présumés sûrs? Désirez-vous que vos mandataires rendent compte de leur gestion à quelqu'un annuellement? Si oui, à qui? Y a-t-il des personnes qui sont financièrement à votre charge? Avez-vous des enfants mineurs? Si oui, qui agirait comme tuteur advenant votre incapacité et celle de leur père? Désirez-vous rester à domicile le plus longtemps possible? En cas d'hébergement, avez-vous des critères particuliers, par exemple propreté, hygiène, lieu, clarté, chambre privée, etc. Êtes-vous à l'aise avec des clauses qui précisent que vous êtes contre toute forme d'acharnement thérapeutique? Consentez-vous au don d'organes? Si oui, fournir votre numéro d'assurance maladie. Et en cas d'inaptitude partielle ou temporaire, désirez-vous que préséance soit accordée au mandat de préférence à l'ouverture d'un régime de protection? Voilà, donc c'est donc quelques questions à se poser en cas d'inaptitude. C'était un texte écrit par Sophie Stival dans la revue Le Bel Âge de juin 1975 qui s'intitulait « Gérer l'argent de ses parents, un défi de taille ». Thank you.
L'été est à nos portes et protégez-vous sans y occuper. 50 idées à moins de 50 $. Connaissez-vous le canyon des portes de l'enfer? À Saint-Narcisse de Rimouski?
Non.
La ferme Guillon à Chambly ou encore le musée des Abénakis à Audalac? Si la réponse est non, profitez des belles et chaudes journées d'été pour les découvrir en famille, ainsi que la Foresta Lumina de Coaticook.
Je prends des notes.
Oui. En 2011, Protégez-vous avait présenté 25 suggestions de sorties à moins de 50 $. Et pour ce nouveau guide, nous doublons les propositions. Nos journalistes ont recensé pas moins de 50 idées d'activités réalisables avec un budget maximal de 50 $ pour une famille de deux adultes et de deux enfants de 4 et de 7 ans. Une fois sur place, si vous avez apporté lunch, boisson et collation, vous ne devriez avoir que le prix d'entrée à débourser. Certains tarifs ont augmenté depuis 2011. Comme le prix d'entrée dans les parcs de la CEPAC qui est passé de 11 à 17 $. Mais ces hausses ont généralement suivi l'évolution du coût de la vie et la majorité des activités que Protégez-vous avait recensées il y a 4 ans font donc toujours partie de la sélection. Et pour établir les prix, on n'a pas inclus le coût de l'essence cependant, car le nombre de kilomètres à parcourir pour rejoindre un site varie selon le point de départ de chacun et il est parfois possible d'utiliser le transport en commun pour se rendre sur place. Et on a tenu compte du prix du stationnement uniquement lorsque l'auto est le seul moyen d'y aller. Mais dans bien des cas, le stationnement est gratuit. Enfin, les prix indiqués ne comportent pas les taxes, à moins de mention contraire. Et certaines activités sont offertes sur réservation seulement. Informez-vous donc avant de planifier votre voyage. Alors, dans les pages suivantes, on va donc découvrir 50 suggestions de sorties. Je n'aurai pas le temps pour toutes les mentionner. Répartis en trois grandes catégories, sport et nature, culture, animaux, ainsi que 10 trucs et astuces pour sortir en famille à moindre frais. Bonne aventure! Bon, alors, la plage du parc Jean Drapeau. Ah, c'est bon ça. C'est une plage qui est accessible en auto, métro ou vélo, et c'est 22,50 $. Le parc de l'île Saint-Quentin. Ce centre récréo-touristique situé en milieu urbain comprend 3,5 km de pistes cyclables, une plage, une piscine et des jeux pour enfants, 15 $. Complexe récréo-touristique Baie des Sables. L'endroit propose une plage aménagée, une aire de pique-nique et trois terrains de volley-ball sur sable fin, 10 $. C'est au lac Mégantic, ça. La Vallée secrète. Chasse au trésor dans une forêt peuplée de gnomes joyeux avec des parcours adaptés à l'âge des participants. Le parc national d'Oka et le parc offrent de nombreuses activités, plages, pistes cyclables, sentiers pédestres. Le parc aventure Joannès, à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Ça vous tente d'aller faire un tour par là. Mm-hmm. Le parc de la rivière des Mille-Îles, excursion écologique sur la rivière, en canot, kayak, chaloupe ou pédalo pour faire l'observation de la faune à l'aide d'une carte de parcours. Ensuite, le parc de la Gatineau. À découvrir si vous êtes amateur de plein air, de randonnée, de vélo et de baignade. Le parc de la gorge de Coaticook. On y arrive. Ce parc offre de nombreuses activités, randonnée à pied ou à vélo, observation des oiseaux, découverte d'une centrale hydroélectrique, et on va rajouter, puisqu'il n'est pas mentionné ici...
La forêt phénoménale.
La forêt phénoménale?
Oui.
Pas Foresta Lumina?
Oh oui, mais il y a le latin puis le français, là.
Ah bon, d'accord. OK. Alors, on a appris de sources sûres que ça sera pour deux adultes, 16 $ par adulte, ça fait 32. Un enfant est de...
9 $,
donc 32 plus enfant. 9, et le deuxième enfant sera 7 $. On est à moins 50 $, on peut aller faire un tour à Coaticook.
C'est bon.
Parc linéaire interprovincial Petit Émi.
Émi, comment ça s'appelle?
À Rivière-du-Loup, ça. Témis.
Ah, Témis, hein, OK.
Ah, vous connaissez?
Témis.
Ah, pas Témis. Ah, ben non. Cette piste cyclable de 134 km, au Mont du Atelier-Vous, est aménagée sur une ancienne voie ferrée. Le parc des Chutes d'Orwin. La rivière Waro traverse ce parc, comptant plusieurs sentiers d'interprétation et belvédères. Ça, c'est à Rodden. Le parc national d'Agaspésie. Ensuite de ça, il y a le parc national d'Aiguebelle. Oh, ha, ha. L'endroit permet de découvrir des phénomènes géologiques, des marmites de géants.
Pas à Saint-Louis-du-Ha-Ha, non?
Non, c'est à Rouyn-Noranda. Abitibi-Témiscamingue. Des coussins volcaniques et une faune variée. Orignal, castor, vison, héron, balbuzard. La ferme Turcot à Laval. Autocueillette de fraises, de framboises, de piments, de tomates, d'aubergines et de citrouilles. Ça, c'est de juin à octobre. Puis les prix sont variables, dépendant du fruit et de ce que vous cueillez, c'est sûr. Le canyon des Portes de l'Enfer. Oh, ce réseau de sentiers pédestres conduit à une passerelle suspendue haute de 63 mètres, d'où vous pourrez admirer la chute du Grand Sault, sa Saint-Narcisse de Rimouski.
Ah ben.
Oui, c'est beau ça. Ensuite de ça, le Centre des sciences de Montréal. Pourquoi pas? Ce musée conçu pour les familles propose plusieurs activités interactives dans le domaine des sciences et technologies. La Cité de l'énergie à Shawinigan. Le musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue. Le musée canadien de l'histoire. La musée du fjord. Le musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, en passant par Quatico.
Oui, c'est ça, oui.
Le musée maritime du Québec. La maison Louis-Cyr. Le musée national des beaux-arts du Québec. Le musée d'art contemporain des Laurentides. Le musée québécois d'archéologie. Il y en a des musées.
Mais...
hein? Il y a de quoi s'amuser avec les musées. On se termine là-dessus, merci. Ah, tous ces musées et tous ces amusements proviennent de la revue Protégez-vous 2015.
Alors, je reprends le cours, la brève que j'ai totalement manqué lors de la première pause. Infidélité financière. Aux États-Unis, 14 % des femmes ont déjà fait un achat d'une valeur de plus de 500 $ à l'insu de leur conjoint et une sur 20 possède un compte bancaire secret. Les hommes ne peuvent pas leur en vouloir. 25 % d'entre eux ont dépensé 500 $ sans en souffler mot à leur tendre moitié et près de 1 sur 10 a un compte en banque à l'insu de madame. Des petites cachettes.
Hein? Mais oui. Alors... chiffres à propos du mandat en cas d'inaptitude dont j'ai parlé avant. Au Québec, 36 % des adultes ont préparé leur mandat en cas d'inaptitude, soit 2,2 millions de personnes. L'âge moyen du mandant lors de l'homologation est d'environ 80 ans. Les mandataires sont les enfants dans près de 60 % des cas et le conjoint dans près de 20 % des cas. Enfin, l'âge moyen des mandataires est d'environ 60 ans et près de 56 % sont des femmes. Ce sont les sources et le curateur public du Québec en 2010.
Oui, l'exotarium.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ce jardin zoologique privé entièrement consacré aux reptiles, serpents, crocodiles, lézards, grenouilles et autres animaux à sang-froid. Alors, c'est une autre sortie en famille, ça. Le zoo de Falardeau.
Ah oui.
Le zoo vient en aide à des animaux en détresse. Vous y verrez une grande variété de bêtes, dont des babouins, des wapitis, des cougars et des dromadaires en détresse.
Ah, mon ça, Dieu. J'aime ça. Bon, alors, c'était le Kiosque Magazine que nous avions à vous proposer aujourd'hui. Francine Nieuviard,
oui.
Serge Hamelin,
oui.
Roger Roy, en régie, Mathieu, oui, c'est lui.
Oui, c'est lui. Et... alors, bon été.
Bon été, au revoir.
Et à la semaine prochaine.
Oui.